Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface et sur la boutique en ligne lescapricesdethérèse.com. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, après cette émission exceptionnelle en Guadeloupe la semaine dernière, nous voilà de retour en métropole avec un sommaire bien chargé encore aujourd'hui, avec déjà eh bien 3 coups de cœur ciné aujourd'hui. Le premier va être consacré au film Ici et là-bas qui est sorti mercredi dernier au cinéma. Ludovic Bernard et Hugo Becker seront nos invités. On va parler également de Borgo qui est sorti aussi mercredi dernier au cinéma. Avzia Herzi, Moussa Mansali et Stéphane de Moustier, le réalisateur, vont venir nous en parler. Et puis ça sort mercredi dans les salles, ça s'appelle Frères. C'est le nouveau film d'Olivier Casas qui sera avec nous, avec Michel De Robert, dont c'est la véritable histoire dans le film que vous allez découvrir. On va également parler de Terminal qui démarre ce soir sur Canal+, avec son réalisateur Mohamed Hamidi. On va parler également de Disparition inquiétante, un nouvel opus qui sera diffusé mercredi soir sur France 2. À cette occasion, Bruno Solo, qui incarne le nouveau duo avec Claudia Tagbo, sera notre invité pour en parler. Et puis Louison également viendra faire le bilan de son aventure dans Pékin Express à l'occasion de la diffusion de la demi-finale qui sera donc jeudi soir sur M6. Louison nous dira tout. Enfin presque. Et puis nous aurons également le bonheur de recevoir Lucie Cariès qui est réalisatrice du documentaire sur les années 80 Les Brunes ne comptent plus pour des prunes. Ça sera diffusé vendredi soir à 21h10 sur France 3. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore une fois aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Ici et là-bas avec Ludovic Bernard, le réalisateur, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Ludovic.
Bonjour, bonjour.
Très heureux de se retrouver après ces 10 jours sans maman ou encore sans maman. C'est avec grand plaisir qu'on te retrouve avec un duo hyper énergique, Ahmed Silla et Hakim Jemili, Hugo Becker, qui va nous rejoindre également dans un instant, qui joue un peu le méchant aussi de l'histoire. Raconte-nous un peu l'histoire de base et surtout comment est venu ce projet.
C'est un projet qu'on m'a proposé, un scénario qu'on m'a proposé, que j'ai lu dans la journée et que j'ai accepté quelques heures plus tard. Donc voilà, que je trouve que c'est un film, une comédie qui a un sens, qui a de l'émotion et qui fait rire et qui raconte quelque chose. Quelque part, ça m'a rappelé beaucoup L'Ascension. Et du coup, j'ai appelé Ahmed Silla très vite, hein, qui l'a lu également dans la journée et qui m'a tout de suite dit oui.
Exactement. Et là, vous vous retrouvez, j'imagine, avec un grand plaisir, avec ce succès incroyable qui a été L'Ascension, qui a été primé à l'Alpe d'Huez. Et là, du coup, avoir représenté ce nouveau film à l'Alpe d'Huez, ça doit faire toujours un petit quelque chose.
C'est très très humblement qu'on revient, mais je suis très heureux d'être là. C'est vraiment l'Alpe d'Huez, c'est un festival qui m'a lancé, qui m'a permis de faire aussi d'autres films et d'en faire encore. Donc, je suis ravi d'être là. Vraiment, c'est un festival qui me tient beaucoup à cœur.
Alors on va y retrouver le parcours d'Adrien qui lui est installé depuis 15 ans au Sénégal, sénégalais dans l'âme, hein, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et puis on va y suivre également Sekou alias Cédric pour le travail qui lui est installé en France, c'est Ahmed Silla, et qui va se retrouver en compétition pour ne pas être licencié et va devoir évidemment faire avec et faire un tour de France pour tenter de décrocher des contrats pour son entreprise, sans compter son cousin Adrien qui lui va être expulsé du Sénégal alors que sa femme attend un enfant et va tout faire pour rentrer au Sénégal au plus vite puisque lui ne comprend pas pourquoi il ne peut pas rester là-bas parce que pour lui il est sénégalais, bah oui, mais seul problème c'est qu'il est français.
C'est qu'il est français, exactement, on a inversé les rôles, on a voulu parler de cette thématique-là d'aujourd'hui qui est aussi un petit peu le racisme et d'inverser les rôles avec Ahmed et Hakim, et c'est bien résumé.
Toute une partie tournée au Sénégal ?
Oui.
En plus, ça doit être chouette de pouvoir tourner au Sénégal.
Le Sénégal est un pays absolument magnifique. On a été très bien accueillis. On est resté là-bas plusieurs semaines. Et c'était important de montrer la beauté du Sénégal, aussi belle que la France l'est également. Donc voilà, c'était vraiment... on a fait de très très belles images là-bas.
Et puis il y a tout un tour de France. Donc ça a été tourné à chaque fois dans les villes. Alors on a vu Troyes, on a vu Uzès qui va être une grosse partie aussi. Mais ça a été tourné dans tout plein d'endroits de France. Ce qui doit compliquer la tâche quand même pour un tournage.
Ah bah, bien sûr, on s'est beaucoup baladé, on est allé à Berck, on est allé à Paimpol, en Bretagne, on est allé à Troyes, comme vous le disiez, on est allé à Uzès, à Toulon, à Marseille, et je crois que j'en oublie une ou deux villes. Oui, c'est un film qu'on a passé sur la route, voilà. Mais de toute façon, c'est le road trip du film, hein, c'est le buddy movie, et le road trip, c'est deux personnages qui sont enfermés dans la même voiture et qui doivent faire un tour de France ensemble, voilà. Et ce tour de France va leur permettre de se retrouver, de retrouver en tout cas leur identité.
Et il va y avoir un pacte qui va être passé entre les deux cousins, puisque le personnage d'Hakim, Adrien, va avoir besoin de 3000 euros pour rentrer au Sénégal. De son côté, Sékou, lui, alias Cédric pour le travail, pour signer son contrat, va faire passer son cousin pour lui, puisqu'il a peur effectivement de sa couleur de peau et que ça lui empêche. Le racisme, effectivement, est en fond, même si c'est traité sous fond de comédie, mais il y a quand même un très très beau message aussi là-dessus, puis des interrogations que ça peut poser vis-à-vis du public. Et donc, le personnage d'Ahmed Silla va lui proposer de lui payer ses 3000 euros en échange de l'aider tout au long de cette semaine, puisqu'il a 5 jours, en tout cas, pour décrocher plus de contrats que Bergeron, alias Hugo Becker, qui va nous rejoindre dans un instant.
C'est exactement ça, et l'idée principale c'était vraiment d'inverser les rôles entre Ahmed et Hakim, mais c'est terrible je trouve de voir, et je pense que c'est ce que vit le personnage d'Ahmed dans le film, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent le vivre encore aujourd'hui, et ça c'est terrible, on doit trouver une solution à ça.
Ouais, pour enlever ses a priori, c'est ce racisme au CV, au nom, enfin c'est dingue qu'en 2024 on en soit encore là quoi.
Oui, c'est pas possible. Et donc voilà, c'est de ça dont je voulais qu'on parle. Et si les gens peuvent réfléchir et écouter et entendre ce message, ce sera encore mieux.
Voilà. Il y a eu une scène particulière pour toi qui a été drôle à faire, où tu as vu un peu la magie opérée déjà d'entrer avec ces deux comédiens incroyables.
Surtout une phrase dans le film que j'aime beaucoup, c'est la phrase d'Hakim quand il dit « Je suis français, je suis sénégalais, ici ou là-bas, je suis l'homme que je suis et je le resterai ». C'est une phrase qui résume bien le film. Voilà.
Il y a des souvenirs de tournage particulier avec ces deux-là, parce que là, on a quand même deux Rolls qui sortent de scène, qui sont capables d'improviser à n'importe quel moment. Est-ce que tu les laisses sortir un peu de temps en temps du cadre pour proposer des choses, ou ils doivent rester absolument dans le texte et dans ce que tu leur demandes ?
Ils doivent rester dans le texte parce que la comédie demande beaucoup de rigueur, plus de rigueur qu'on ne le pense, en tout cas. Mais malgré tout, évidemment, il y a des impros, parce que j'ai deux Rolls Royce, j'ai deux mitraillettes absolument génialissimes, et il y a eu beaucoup, beaucoup de fous rires, même avec le texte écrit. Il y a pas mal de coupe à cause de ça, et d'ailleurs à la fin il y a un petit bêtisier dont on pourra profiter.
Si vous avez envie en tout cas d'aller rire, d'être ému, ben c'est le moment d'aller voir Ici et là-bas. Ça sort mercredi au cinéma. Ludovic, merci d'avoir été avec nous. On va se quitter avec la bande-annonce juste après Hugo. Et avant de terminer, est-ce que tu prépares déjà ton prochain film ?
Je prépare, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui.
Tu reviendras ?
Exactement, avec plaisir.
À bientôt Ludovic, et tout de suite après Hugo Becker nous rejoint dans Chut, on écoute la télé, à tout de suite.
Je veux un passeport sénégalais, moi.
Il est bien mignon avec ses histoires de passeport. En attendant, moi, j'ai juste mon job.
Et c'est quoi ton job ?
Je travaille chez Terroir de nos régions. Je représente les terrines, les foie gras, le bon pain, les spécialités françaises.
Mais moi, comment je fais, là ? Bah, tu m'accompagnes.
Oui, allô, Alexandra ? Je suis en chemin, là.
Mais ça bouchonne pas mal, hein.
Tu parles bien le blanc, hein.
T'as intérêt à te tenir à carreau, toi. D'habitude, je suis derrière un téléphone. La province, c'est compliqué pour moi.
Moi, je te vois habillé comme ça, personnellement, je t'achète n'importe quoi. Hein.
Ils savent pas que je suis noir.
C'est bon, tu comprends là ?
Allez, on revient avec notre spécial ici et là-bas. Et puis après, Ludovic Bernard, c'est Hugo Becker, un habitué de l'émission qui nous rejoint. Bonjour mon cher Hugo.
Salut Alain, merci de me recevoir encore.
Eh ben, écoute, t'es chez toi ici, tu le sais, et ici et là-bas. Eh bien, c'est le film où tu joues un parfait connard. Et ça, ce qu'on aime. Puisque là, Bergeron, on a planté le décor, hein, évidemment, avec Ludovic. Mais alors, Bergeron est celui qui va tout tenter. Puisque dans l'entreprise... c'est l'un ou l'autre qui va garder son poste et donc il va tout faire pour que Cédric n'arrive pas évidemment avant lui à rassembler le nombre de contrats nécessaires pour garder son poste. Comment sur un film comme ça, sur un rôle comme ça, qu'est-ce qui t'a plu en premier ? Est-ce que t'as dit oui tout de suite déjà ?
Ce qui m'a plu le plus, en fait Ludovic Bernard m'a appelé, j'ai lu le scénario, j'ai trouvé que la thématique et le sujet, à mon sens fédérateur et réconciliateur, étaient... ça faisait du bien ce genre de film. Et j'avoue que moi Ahmed Silla et Hakim Gemini, c'est deux acteurs que je trouve super. Donc ça m'enthousiasmait déjà. Et la thématique du film, ouais. La thématique du film. Et après évidemment sur le rôle, ce qui m'amuse, moi j'essaie de faire des choses différentes. Bah, tu vois, de pas refaire toujours la même chose. Et c'est vrai que du coup c'était assez jouissif et assez amusant de jouer un lourd, un peu le mec un peu beauf qui te met des claques dans le dos, qui est un peu en surconfiance et qui a un côté
très prétentieux,
qui est un peu ouais, qui est assez prétentieux, très sûr de lui et qui est effectivement son rival et qui est un peu effectivement qu'on peut voir un peu comme un connard, même si je trouve que il a un truc touchant ce mec là
ça vient au fur et à mesure.
Ouais c'est ça. Après bon évidemment les stars c'est Ahmed et Hakim dans ce film, et c'est vraiment c'est Starsky et Hutch quoi. Et lui, tu n'as pas accès à son intimité de la même façon, mais je trouve qu'il y a quelque chose, c'est un rôle où tu t'amuses vraiment à jouer quelque chose comme ça, et je trouve qu'il y a quand même une petite évolution dans le personnage, et la fin te donne un petit espoir pour Bergeron, où tu te dis il est peut-être pas complètement
si pourri que ça.
Il est peut-être pas complètement foutu ce mec là. Ouais voilà, exactement. Donc voilà, je me suis beaucoup amusé sur le tournage et dès que j'ai eu Ludovic au téléphone, je savais que j'avais quelqu'un de extrêmement bienveillant et que ça allait être agréable de travailler avec cette équipe-là, quoi. Et Ahmed, voilà, je le connaissais un petit peu. On avait fait les jeunes talents à Dami. Il a réalisé un des courts-métrages et moi aussi. Et c'est quelqu'un que je trouve top. Donc j'étais, ouais, non, c'était un plaisir. Vraiment, c'était un plaisir ce tournage.
Il y a quelque chose de très véridique, de très réel.
Si on joue des gens deux personnages qui se détestent, au final, c'était dans la vie, c'est pas du tout le cas. Donc, et je pense que c'est important d'ailleurs pour bien jouer deux personnages qui se foutent sur la gueule. C'est bien de bien s'entendre et qu'il y ait des affinités entre les acteurs. Je pense que c'est important, sinon tu fais pas les choses de la bonne façon, je crois.
Ouais. Il y a quelque chose justement de très réel, de très véridique justement chez Bergeron, parce que qui dans une entreprise, en étant mis en compétition comme les Bergeron, avec moins d'expérience, moins d'années d'ancienneté, irait pas se défendre en jouant justement cette prétention, en surjouant quoi, en quelque sorte.
Exactement, tout le monde joue en fait dans la vie, et Bergeron, c'est clair que c'est un mec qui a une façade totalement. Ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que même si évidemment c'est le rival et l'ennemi, et tu vois, il y a un moment donné où il y a une scène où on justifie un peu son comportement.
C'est là où il tombe un peu le masque.
Exactement, et en fait le monde de l'entreprise, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Tout le monde est mis en compétition tout le temps. Effectivement, quand t'as moins d'expérience, t'es obligé de bluffer un peu, t'es obligé de te la raconter un peu. Pour certains, en tout cas, tu tombes dans le travers de te la raconter ou devenir quelqu'un que tu n'es pas, quoi. Il est nécessaire, je pense, à l'évolution et au parcours de Ahmed dans le film et à sa prise de conscience.
De mettre une espèce de contradiction, effectivement, aussi. On termine par tes projets, Hugo ?
Ouais, avec plaisir. Là, j'ai une série qui s'appelle The New Look, une série pour Apple TV.
Qui vient de sortir, ça, oui.
Exactement, en anglais, donc avec Juliette Binoche, John Malkovich et Maisie Williams et Ben Mendelsohn. Je joue avec un personnage qui a existé, qui s'appelle Descharbonnerie, qui était un chef de résistance à Paris. C'était assez génial, c'était un gros tournage, hein. Ça a duré 6 à 8 mois. Donc ça c'est sur Apple TV. Et j'ai la série La Peste.
Oui, qui est sur France.tv encore d'ailleurs.
Exactement, La Peste avec Frédéric Pierrot, avec Pascal Arbiot, Judith Chemelin, Sophia Saïdi. Il y avait un casting génial sur ce projet. Série de Antoine Garceau, adaptée de La Peste de Camus évidemment, mais de façon dystopique. Donc voilà les projets du moment.
Bon, bah c'est chouette. Et puis ici et là-bas, ça sort mercredi dans les salles, donc on ne rate pas, évidemment.
Et surtout ici et là-bas, évidemment.
Merci Hugo, à bientôt.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Si ça peut te rassurer, cousin, pour moi, t'es super français, hein. Tu gueules, tu râles tout le temps.
Et tu ronfles ! Non, je ronfle pas !
Vas-y, tu ronfles ! Pour moi, tu es la France à toi tout seul.
C'est con.
l'aime bien, mais il est...
J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie.
Comme un peu blanc.
Allez, dans un instant, nos coups de cœur télé, Mohamed Hamidi, Bruno Solo, Louison de Pékin Express et Lucie Carrias seront nos invités en fin d'émission spéciale Frères avec Michel Derobert et Olivier Casas. Alors surtout, ne bougez pas, on aura également notre spécial Borgo avec Stéphane de Moustier, Avzia Erdi et Moussa Mansali. A tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
À tous les malins, les mégalos, les mégabelles et les pieds beaux, les malchanceux, les michetos, les sans-cheveux et les sans-chauds, les pathétiques, les pathétiques, les coups de vieux et les sceptiques, dans une ronde emblématique. À tous les baveux, tous les bavards, tous les grincheux, les grands guignards, les culottés, les saintes n'y touchent, tous les faux culs et les grandes bouches, l'original, le placebo, on est tous là sur la photo, et tous en cœur, même si c'est faux, chante avec moi. Les malheureux, les misérables, tout cela autour de la même table. À tous les dingues, tous les jaloux, toutes les baltringues, les petits voyous, les bras ballants, les courses sur pattes, les gros bonnets, les cul-de-jattes, tous ces gens-là et leurs défauts, on est tous là sur la photo, et tous en cœur, même si c'est faux, chante avec moi. On mettait dans un conteneur un peu d'amour pour ceux qui ont rien. De la musique qu'on ne joue même pas, des guitares, des pianos, harmonica. Au bout du monde, ça se pourrait bien que celui qui n'attend plus rien reprenne avec nous ce refrain. Chante avec moi.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Terminal qui débarque ce soir sur Canal+, nouvelle création originale Canal, avec Mohamed Hamidi qui est aux manettes de cette nouvelle série. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, t'es un habitué de l'émission et là c'est avec un grand plaisir pour la première fois. Eh bien c'est pour une série que tu viens, c'est pas pour un film cinéma, et une série qui s'appelle Terminal, où je crois qu'on va beaucoup rire. Hein.
C'est vrai, c'est une série de sitcom hein, à l'ancienne avec les codes publics en studio, avec des séquences courtes et avec beaucoup de punchlines et beaucoup de vannes. Ça a été écrit par une équipe d'auteurs et avec lesquels on a retravaillé ensuite avec Jamel Debbouze, parce que en fait je co-réalise la série avec Jamel Debbouze. Et au casting on a des gens comme Ramzi Bedia, comme Camille Chamou, comme Tristan Lopin, comme Brahim Boulel, et beaucoup d'invités aussi. Et donc c'est la création originale qui nous a Ça fait quelques années que Jamel avait envie de revenir à la sitcom depuis H, hein, ça faisait 22 ans je crois. Et ça a été très, voilà, c'est un parcours très intéressant, assez beaucoup de doutes en se disant est-ce qu'on va réussir à monter ce truc et tout. Et finalement, ça a été un vrai plaisir, une vraie joie. Pour moi qui fais du cinéma mais aussi de la scène, parce que je fais aussi de la mise en scène, c'est pile entre les deux quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'exigence de l'image et du cinéma, mais il y a aussi la jouissance de jouer devant un public et d'avoir des réactions immédiates quoi. Donc ça c'est vraiment super.
Et la rapidité aussi, parce que c'est pas le même rythme qu'au cinéma, même si à la télé, Canal Plus est peut-être la chaîne qui laisse peut-être le plus de temps aujourd'hui, mais malgré tout, en jour de tournage, c'est toujours plus rapide qu'au cinéma.
Bien sûr, là on a tourné quasiment 12 épisodes de 26 minutes en 35 jours, donc ça équivaut à 4 films. Et du coup, ça nous a effectivement obligé de prendre un rythme assez rapide. Et ce qui oblige aussi à aller vite, c'est la présence du public. Parce que le public, même si le public vient pour assister à un tournage et il vient pas assister à une pièce de théâtre ou à un show, hein, mais malgré tout, voilà, quand on a le public en face de soi, ben on a envie d'être plus efficace. Donc on fait 2-3 prises maximum, 4 prises, parce que on veut pas les user non plus. C'est vrai qu'on tournait en gros notre rythme. C'était une journée de lecture, répétition et 2 jours de tournage pour un épisode.
Alors ça se fait plus, un tournage d'une série en public, où le public peut assister carrément et devient un peu aussi membre à part entière, aussi avec les rires, avec tout ce que ça comporte à côté.
Ah non, mais le public, c'est vraiment, vous le verrez dans la série, tous les rires sont des vrais rires qui ont été captés pendant l'enregistrement de la série. Ça change complètement la manière de jouer des comédiens, ça change complètement la manière de réaliser aussi pour nous, parce que forcément, on est sur des décors, hein, sur du studio, donc le public n'est pas présent à l'image, mais on l'entend, et le public donne l'action. Par exemple, Seth Jamel tenait beaucoup à ce que sur chaque séquence, ce soit le public qui fasse 3, 2, 1, action. Donc ça, pour les comédiens, c'est hyper grisant. Et puis, effectivement, on fait une prise, et puis après, on dit au public, alors, voilà, on va changer des choses, on a vu que cette vanne, elle passait pas trop, donc on était avec les auteurs, on réécrivait sur place, en fonction de la réaction des gens, les comédiens avaient toujours envie, en plus c'est des comédiens qui aiment beaucoup improviser, comme Ramzy, comme Camille Chamou, Brahim Boulel, Tristan Lopin, puis des invités comme Cad, et on a quand même Cad Merad, on a quand même eu Manu Payet,
Camille Cotin,
Horatica, enfin, des gens qui ont vraiment apprécié d'être en public. Ça change vraiment, c'est entre le théâtre et le cinéma, donc franchement c'est un vrai bonheur à tourner.
Ça raconte quoi en quelques mots, le début?
Alors Terminal, en fait, c'est une compagnie low cost, un peu de pied nickelé, mais hyper attachante. Le commandant de bord, c'est Ramzy.
Ça donne le ton.
Le commandant de bord, c'est Ramzy. Sa copilote, c'est Bérangère MacNiz. Et en gros, c'est une compagnie qui s'appelle Flywings, qui est un peu voilà, la compagnie un peu mise de côté, mais et à chaque fois qu'il y a des vols, il se passe toujours des trucs incroyables. Ils ont perdu un boulon, donc ils peuvent pas décoller. Ou alors, sur un autre épisode, il y a une inspection. Et c'est pile le jour où Ramzy a filé son costume de pilote à un des PNC pour lui faire plaisir. Donc le PNC se retrouve dans la cabine de pilotage. L'inspecteur en question est joué par Cad Merad. C'est aussi un moment, le fils du patron qui vient faire un vol et qui s'enferme dans le cockpit et qui prend les commandes de l'avion. C'est complètement loufoque. On a gardé vraiment l'état d'esprit de l'absurde. Hein. C'est une famille d'aviation, on va dire, à laquelle on s'attache beaucoup. C'est un plaisir toujours de créer des personnages et de les voir vivre dans le temps, parce que la série, ce qui est intéressant, c'est la durée dans le temps.
Oui, le but. Alors là, on va suivre les premiers épisodes. C'est parti pour 3 ou 4 soirées hein, sur Canal. Ils vont les diffuser puisque c'est des épisodes de 26 minutes.
Par deux. Ce sera diffusé par 2 épisodes, donc ça fait 6 soirées.
Ah oui, donc c'est parti pour un mois et demi.
Ouais, un mois et demi de diffusion, et sans parler de la saison 2.
Alors, saison 2 déjà sur les rangs.
Ah, on aimerait beaucoup, je pense qu'on aimerait beaucoup, on a tellement pris de plaisir à faire ça, que ce soit avec les comédiens, que ce soit je pense avec la chaîne qui aime bien le programme, que ce soit avec avec Jamel, avec qui on a co-réalisé la série, les auteurs qui sont déjà en train de réfléchir. Bien sûr, ouais, on aimerait beaucoup continuer cette histoire parce que c'est un dispositif énorme à créer, c'est-à-dire créer cet avion, créer ce cockpit, créer cette salle ou cet endroit, la tribune, c'est une tribune tournante, le dispositif est complètement délirant, hein. Franchement les gens qui sont venus
ils ont halluciné.
Ils ont halluciné, venaient, ils revenaient, et on avait vraiment du public tout le temps. Les gens voulaient venir rester. Nous, au début, on se disait, bon, le public va se fatiguer, au bout de 3 heures, ils vont vouloir partir. Ils restaient jusqu'au dernier plan, quoi. Et ça donne envie, maintenant qu'on a tout le dispositif en place, qu'on a nos personnages, on a très envie de poursuivre l'aventure.
C'était tourné où? En studio?
Ça a été tourné en studio à Tigerie, dans un studio, qui s'appelle Black Matters, qui est à une vingtaine de kilomètres de Paris.
quand on tourne en studio comme ça, ça permet peut-être de gagner du temps aussi, quand on a tous les décors au même endroit comme ça.
C'est un autre travail, c'est-à-dire qu'effectivement, on va toujours au même endroit. On tourne qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, donc ça c'est génial, surtout qu'on a tourné au mois de novembre et que c'était pas très, que le climat était pas génial. Non, ça a de grands avantages, c'est qu'effectivement, on maîtrise tout en studio. Par contre, effectivement, il faut, en studio, il y a un effort de mise en scène supplémentaire à faire parce qu'on n'est pas, moi j'aime bien tourner mes films en décor naturel, très souvent je tourne en décor naturel, et en studio, il faut recréer la vie, donc ça demande une attention particulière dans la mise en scène.
La comédie, on dit que c'est ce qui est le plus pointu. Malgré tout, sur un tournage comme celui-là, est-ce que on se laisse aller à des moments de fou rire quand on les voit jouer? Parce que j'imagine quand toi t'es derrière justement la caméra et que tu vois des Ramzi Bedia, des Cadmera, avoir l'œil qui frise comme ça, c'est des comédiens hyper instinctifs en plus. Est-ce qu'on arrive à se retenir un peu?
Quand on a monté la série, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de ce qu'on pourrait appeler du making-of ou du bêtisier, parce qu'effectivement, devant le public, alors, par contre, on avait une règle, nous, c'est que, on allait toujours au bout des scènes. Comme on n'avait pas le temps, il fallait impérativement que quand une séquence démarrait, que ce soit une séquence de 2, 3 ou 4 minutes, on allait jusqu'au bout. Donc, quand les mecs se marraient ou les filles se marraient, on leur disait, on veut pas le savoir, vous reprenez votre phrase et on continue, rendez-vous à la fin de la séquence, quoi. Et, bien sûr, ils sont très tentés d'improviser, très tentés de surprendre le public, de nous surprendre nous, de surprendre leurs partenaires. Très souvent, ils disaient, attends, je vais lui en faire une, tu vas voir. Ou moi, parfois, avec Jamel, on trouvait des vannes et puis on disait, tiens, Brahim, tu vas balancer ça à Ramzi, mais ne lui dis pas, on va voir comment il va réagir. Donc, tu lui sors cet objet, et donc, on se faisait des petites surprises comme ça, parce qu'au bout de 2-3 prises, voilà, on veut continuer à surprendre le public et à surprendre les comédiens. Donc, bien sûr, on a eu des grands fous rires. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça se ressent aujourd'hui quand on voit la série. Et d'ailleurs, ces petits bêtisiers là, où on voit l'énergie qu'il y avait sur le tournage sont hyper intéressants à regarder. Il y a un making of de la série aussi, on peut voir sur Canal, où on voit vraiment dans quelle ambiance ça a été fait.
Et ben, en tout cas, moi, j'ai déjà hâte de découvrir Terminal. Ça débarque ce soir, les deux premiers épisodes sur Canal+, nouvelle création originale réalisée par Jamel Debbouze et Mohamed Hamidi. Merci Mohamed, en tout cas, d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Et le cinéma, bientôt?
Ouais, j'espère. Une série, ça prend beaucoup de temps. Donc, si on part sur une saison 2, ça va me remobiliser encore un petit peu. Mais j'ai un ou deux projets que j'aimerais faire assez rapidement et j'y travaille.
Et ben, on sera là, tu le sais, comme d'habitude.
Merci.
Merci à toi, à très vite.
Et bonjour à tous, c'est Jack, votre commandant de bord.
Quelle est votre position et comment vous?
Ma position est assise, je répète, position assise.
Je me suis habillé classe pour la business class.
On dirait Khaled carrément.
Tu sniffes de l'eau écarlate pour être aussi con, quoi.
Moi, je suis né dans les favelas. Je suis un mec de la street à la base. Excusez-moi.
T'es tranquille de me couper la parole? T'as pas remarqué que j'étais en train de développer une pensée?
La tête à genoux, les fesses à plat ventre.
T'as gâté?
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Disparition inquiétante, produit par notre ami Stéphane Strano, qui est également le président du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, avec un nouvel opus intitulé Peur sur le campus. Et on va y retrouver un nouveau duo à la tête, justement, de ce Disparition inquiétante, incarné par Claudia Tagbo et Bruno Solo, qui est avec nous, qui est notre invité. Bonjour, mon cher Bruno.
Salut Alain, comment vas-tu?
Eh bien ça va très bien, je suis très heureux de t'avoir pour ce nouveau numéro de Disparition inquiétante où tu vas jouer le rôle de Patrice Manzetti. Et c'est une incursion au cœur d'un campus qui va voir la disparition inquiétante de l'une de ses étudiantes. Et c'est dans les méandres de ce campus que tu vas devoir enquêter avec Claudia Tagbo.
Dans les sous-bassements et les souterrains d'un campus universitaire dans lequel une jeune fille a été enlevée, visiblement en tout cas, il y a un mystère. Dès les premières images, elle est assommée. Et on se demande si c'est une tentative d'assassinat, d'enlèvement, de kidnapping. On a peu de temps, comme toujours, dans la collection Disparition inquiétante.
Tout à fait.
Initiée par Sarah Forestier au départ. Puis, je crois qu'il y a eu Julie Gaillé, Julie Dotardieu, Alix Poisson, qui en ont fait une.
Ben
et
oui.
Bon, voilà, c'est peu pour de Claudia, que j'accompagne avec beaucoup de plaisir. Et donc, effectivement, on a peu de temps pour retrouver, c'est une sorte de course contre la montre pour retrouver quelqu'une ou quelqu'un, en l'occurrence quelqu'une. L'extraordinaire Pénélope Rose, qui est enfermée dans les souterrains de l'université. Elle est là, si loin, si proche de nous, et nous, on ne s'en rend pas compte, et donc on fouille un petit peu partout pour pouvoir enfin là. Donc voilà, c'est une sorte de course contre la montre, avec deux personnages, des flics très déterminés, jouée par Claudia Tagbo, qui sort un peu de ses rôles de comédie, même si on sait qu'elle a le talent pour faire tellement d'autres choses, et un flic qui paraît un peu désinvolte, qui est un vrai bon flic, qui connaît bien son métier, mais peut-être un peu détaché, obsédé ce jour-là par l'idée de prendre ses RTT, qui aimerait bien que l'enquête soit confiée à quelqu'un d'autre, mais voilà, il n'a pas le choix. Claudia Tagbo, qui vient d'arriver dans la ville, ne veut lui et que lui, même si elle ne s'entend pas particulièrement à lui, elle sent qu'il a un bon instinct et elle se dit qu'il vaut mieux enquêter avec lui. Et ce type est visiblement un peu étrange, cache peut-être des secrets qu'on découvrira au fur et à mesure
évidemment.
Du film.
Il faut dire que les étudiants aussi vont être quand même assez hostiles hein, à ces flics qui arrivent et on va dire vont pas leur faciliter la tâche à Julie et à Patrice. Hein.
Oui, parce que tout au début est précisé par le personnage joué par Julien Boisselier et sa compagne jouée par Natalia Dolcheva. Il y a une sorte de loi très ancienne qui est vraie, hein, qui est inspirée d'une loi universitaire, de celle du campus, qui interdit à la police d'être présente sur le campus de l'université, comme s'il y avait une sorte d'autogestion des problèmes et que les flics n'avaient pas le droit d'entrer sur le campus. C'est le cas dans pas mal d'universités en France. Bon, après, sauf en cas évidemment de plan Vigipérate ou de choses exceptionnelles. Donc voilà, ils sont assez hostiles à l'idée. Et on va deviner aussi pourquoi certains d'entre eux sont assez hostiles à l'idée qu'une enquête se fasse sur le campus.
Ouais.
C'est la course contre la montre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'enquête avance, la désinvolture apparente des personnages, en tout cas du mien, laisse place à une inquiétude sincère et le sentiment, effectivement, que la personne enlevée risque sa vie. Et que passer ce petit moment de panique où on se dit « bon, ben, on va la retrouver, tout ça n'est qu'une petite blague potache entre étudiants », on se rend compte que l'affaire est de plus en plus sérieuse. Et c'est ça que j'ai trouvé plutôt malin dans l'écriture, c'est qu'il y a une prise de conscience des personnages, que maintenant on ne joue plus, on n'est plus justement dans une blague, on est dans une vraie affaire criminelle qui pourrait très mal tourner. Et puis je vous avouerai que j'étais très heureux de retourner avec Sylvienne que j'avais rencontré il y a des années sur Cassandre, avec qui on s'était très bien entendu, et puis de rencontrer Claudia, et puis retrouver aussi Natalia Dolcheva et Julien Boisselier. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que j'avais envie de participer à cette aventure, et puis on a vraiment tourné dans un campus, beaucoup de nuits, c'est des tournages un peu particuliers, des tournages nocturnes, et donc voilà, il y avait toute une ambiance comme ça, une atmosphère que j'avais envie de vivre, voilà, avec mes camarades.
Tes projets, Bono, pour les mois à venir.
Un autre film, j'ai participé à une série récurrente avec Stéphane Bern qui s'appelle Belfond, dans lequel je joue son complice, son meilleur ami qui va devenir son pire ennemi dans le temps d'un épisode.
Ouais. Toujours réalisé par les deux sœurs, Émilie et Sarah Barbeau.
Tous les jeux, exactement.
Très bien.
Là, je m'en vais tourner un César Wagner avec ma copine Olivia Cohn. Après, j'ai d'autres projets, la saison 8 de La Guerre des Trônes. Et puis, à la rentrée, pas mal de projets, dont deux dont je ne peux pas parler pour l'instant, parce que c'est en négociation. Et puis, surtout, l'espérance de reprendre le théâtre dès janvier 2025. Donc, voilà. Donc, j'ai un carnet de balles qui est relativement chargé. Ah oui, et puis un très beau film que nous viendrons sans aucun doute présenter à La Rochelle, qui est un film avec Cécile Bois, Marc Citti, Odile Villemin, Christophe Lobion et Ma Pomme. Qui s'appelle Signalement, et c'est une histoire tragique sur un signalement de maltraitance sur une enfant, et réalisé par l'immense Éric Métayer, tiré d'un livre qui s'appelle Signalement, dont j'avais moi-même fait la préface il y a quelques années, sur des sujets qui me touchent et sur lesquels je suis engagé depuis plus de 25 ans avec La Voix de l'Enfant. Voilà.
Et donc ben
ça, c'est un film que j'ai tourné il y a quelques temps.
On a hâte de découvrir tout ce beau programme. En attendant, on te retrouve mercredi aux côtés de Julien Boisselier, Natalia Dondcheva, Pénélope Rose Lévesque et puis Rebecca Finet. Il y a plein de beau monde en tout cas autour de toi. Et puis Claudia Tagbo, évidemment, que pour ceux qui ont la chance d'avoir peut-être encore karaoké dans les salles près de chez vous, n'hésitez pas à aller le voir. Ça vient tout juste de sortir au cinéma il y a 2-3 semaines. Donc profitez-en. Voilà, si vous n'y avez pas été, Claudia y est absolument magistrale. Voilà. Merci beaucoup, Bruno.
Merci Alain, à très bientôt.
Et à très vite.
Inédit, mercredi prochain.
Après vous, commissaire.
Le campus n'est pas à la police.
C'est qui ces clowns ?
Ce ne sont pas des clowns, ce sont nos étudiants. J'ai autorisé votre présence sur le campus et en principe, la police n'a pas le droit d'y entrer.
Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Une jeune fille a disparu, on est là pour la retrouver.
Ça fait plus de 24 heures qu'elle a disparu. Ça sent pas bon du tout.
Avec Bruno Solo et Claudia Tagbo, disparition inquiétante. Mercredi prochain, 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Pékin Express qui fait son grand retour après 3 semaines d'absence. Eh bien, jeudi, vous allez pouvoir enfin suivre la demi-finale entre les collègues corses, entre les petits suisses et puis également le coiffeur avec sa cliente. Et puis, ben, vous avez vu, hein, peut-être dans l'épisode il y a 3 semaines, c'était le départ de Riyad et de Louison. Et Louison est avec nous pour revenir justement sur son aventure. Bonjour, mon cher Louison.
Bonjour.
Mais quelle aventure de dingue tu as vécue?
C'était incroyable, c'était inimaginable en fait, ce qu'on a vécu au bout du monde avec Riyad, et ouais, ce sera à jamais gravé dans nos esprits.
On s'est dit, la première chose qu'on s'est dit, mais Louison doit être une patte, mais extrêmement, mais bien faite pour supporter Riyad, mais comment tu as fait?
Ben, en fait, ça s'est fait naturellement, on pouvait se détester autant qu'on pouvait s'aimer, on a passé des tellement bonnes soirées que, ben naturellement... On arrivait à passer au-dessus l'un et l'autre quand on était en désaccord. Et le cadre fait que on est quand même à Pékin Express. On n'est pas là pour abandonner ou pour se prendre le chignon. On est quand même là pour passer un bon moment. Donc on arrivait facilement à mettre de l'eau dans le vin et.
Et puis tenter de gagner quand même.
Et tenter de gagner, même si c'était. On n'était pas les favoris au début, je pense.
Non mais attends, faut dire que alors surtout toi là pour le coup, vous avez été vernis concernant les duos finales, hein, les confrontations. Puisque toi, je sais pas combien t'en as fait, mais je crois que sur les 3-4 premières étapes, tu les as toutes faites.
Hein. Ah bah oui, les 4 premières étapes, on a fini au duel final et en tout, on a fait 6 sur 8 épisodes. Je plains celui qui réussira à battre son record parce que vraiment, c'est le truc qu'il lui fait tous.
Il y a plein de records qui ont été battus d'ailleurs, hein. Jérôme et Emma en ont battu aussi des records sur cette saison, le record d'abandon aussi. Voilà, on a vu celui effectivement avec son papy, avec son fameux papy, ça c'était énorme. Myriam aussi, elle nous a même fait de la peine, mais franchement, on a l'impression que c'est une aventure qui vous a malgré tout soudé un peu tous. Il y a une véritable amitié qui se crée derrière.
Ah ben c'est sûr, on vit, en fait c'est tellement à 100 à l'heure, on est tellement, c'est tellement intense comme aventure que forcément ça rapproche et ça crée des liens qui sont indescriptibles. Enfin, c'est des personnes que je connaissais pas il y a encore 6 mois et maintenant je serais capable de leur confier ma vie à certains, enfin vraiment. Alors oui, il y a des affinités plus avec certains que d'autres, mais en règle générale, on s'entend tous très très bien et on a vraiment créé un noyau dur en fait dans cette aventure.
Alors pour ceux qui ont raté le dernier épisode, vous êtes incliné face aux collègues corses. Malgré tout, aujourd'hui, quel est le binôme dont vous avez été le plus proche durant cette aventure?
Ben les Corses.
C'était dur, ce duel final, hein, quand même.
Ah ben, moi, je voulais être en finale contre les Corses parce que je les trouve admirables et j'aime leur énergie, j'aime comment ils voient la vie.
C'était ta finale à toi, en fait, là.
Ben, c'était ma finale prématurée, c'est ça. Bon, j'aurais préféré la gagner, cette finale, mais... mais ouais, les Corses, vraiment, c'est deux... Ces deux femmes extraordinaires. Et je les aime de tout mon cœur.
Ça a été quoi, on va dire, ton épreuve la plus difficile? Celle que tu t'es dit à l'issue, plus jamais?
Ah, bah, je pense que c'est... Alors la plus dure, ça reste le trek, le volcan, quand on a dû gravir le Kawaijen.
Mais c'est que manquer d'oxygène, là, en plus. Hein.
Oui. Alors, en plus, il y a le soufre, il y a la fatigue. Mais je le referais. C'est la nourriture, par contre, si je pouvais éviter de le refaire, c'est avec grand plaisir.
Ouais, c'était pas très bon. Alors quel est le pays gustativement le mieux entre la Malaisie, l'Indonésie, alors le Vietnam pour le peu que vous en avez vu, mais en tout cas c'est lequel le meilleur des trois?
Ah ben je pense que c'est le Vietnam.
Enfin, on mange mieux.
Ouais. Alors en Indonésie c'est très bon aussi. Non, les trois en fait. Mais c'est beaucoup plus pimenté en Indonésie que dans les autres pays. Mais ouais c'est différent. Mais l'Indonésie et le Nasi Goreng, en fait. On en a tellement mangé que je pense que il y a un petit surplus de riz là. Mais par contre, c'était très très bon. Et le Vietnam, c'était une découverte. Enfin, pour le coup, je sais même plus les noms de ce qu'on a mangé, mais c'était délicieux.
À quel moment il y a eu ce déclic qui t'est dit, je vais faire Pékin Express tout seul, comme ça, en inconnu, et puis on verra bien avec qui je tombe.
Ben je sais pas. C'est une émission que je regardais déjà depuis que j'étais tout petit. Donc déjà, il y avait quand j'étais plus jeune, il y avait cette envie où je sais qu'avec ma cousine, on en parlait, on disait qu'on voulait le faire, mais c'était un rêve en fait. Ça, c'était inatteignable. Et en fait, ben c'est un soir, mais sur un coup de tête. C'est vraiment un énorme coup de tête où je me suis dit pourquoi pas. On verra bien. De toute façon, tu perds rien. Et quand tu t'inscris, à aucun moment tu penses que tu peux le faire. C'est voilà, tu lances une bouteille à la mer sans espérer quoi que ce soit. Et le premier appel où on te dit t'es sélectionné pour la première phase de casting, cet appel-là, tu te dis « Ah oui, en fait, c'est possible. C'est encore très lointain, mais c'est possible. » Et là, tu commences à y croire. T'es pris dans la machine, dans l'engouement, et tu te dis « En fait, mais si, c'est... C'est pas si difficile que ça. » Alors, bon, c'est possible, quoi.
Alors, tu nous as dit le binôme dans lequel tu étais le plus proche, mais alors maintenant, allez, tu vas un peu te lâcher, puisque maintenant, il y a quelques mois, quel est celui qui t'a insupporté le plus?
Oh, bah, il y en a aucun qui m'ont insupporté. Je me suis vraiment bien entendu avec tout le monde. Bah, en fait, ceux que j'ai jamais vus, c'est les frères, parce que vu que j'ai pris l'avion pas au même moment que les autres candidats, moi, j'avais vu personne avant le début du tournage. Donc pour pas que je rencontre Yad. Donc c'est vrai que les frères, bah en fait l'aventure a commencé, je savais pas qui c'était. Et le lendemain on me dit ils ont abandonné, mais je sais toujours pas qui c'était. J'ai vraiment vu leur visage et appris à les connaître à travers ma télé comme tous les autres téléspectateurs.
Et ceux que tu as vu partir, et tu t'es dit là c'est vraiment pas juste.
Alors directement je pense à Jérôme et Emma, ouais. Mais je pense que les sœurs Inès et Lola auraient pu aller beaucoup plus loin. Je pense que c'était de la malchance, le fait que, bah voilà, c'était notre premier jour à tout le monde. Elles auraient pu aller beaucoup plus loin. J'ai trouvé ça un peu injuste qu'elles partent si tôt. Mais après, par rapport à leur parcours, Jérôme et Emma auraient aussi pu gagner Pékin Express et aller jusqu'en finale parce qu'ils avaient les moyens, en tout cas, de le faire.
Ah ouais, c'est vraiment une aventure qui peut basculer du jour au lendemain ou que le moindre coup de mou ne pardonne pas. Et on l'a vu pour eux et vraiment voilà, on a souffert pour eux deux parce que voilà, c'était pas mérité. Et c'est vrai que voilà, c'est une aventure hors du commun que vous vivez tous. Louison, dernière question. Si on doit te rappeler pour refaire l'aventure pour une version All-Star ou pour une version revoir les binômes qui ont marqué le plus l'aventure Pékin Express, est-ce que tu y retournes et quels seraient les pays que t'aimerais le plus peut-être visiter dans l'aventure?
Ah bah, mon sac à dos est déjà prêt. Okay.
Ah ouais, d'accord, carrément.
Mais oui, si on m'appelle, je repars directement. C'était tellement incroyable. Après, les pays... au tout début, moi, les pays qui m'attirent le plus, c'est l'Amérique du Sud. Mais j'étais persuadé qu'on n'y allait pas cette année parce qu'ils avaient fait ça l'année dernière. Mais donc, si là, on me repropose et que c'est en Amérique du Sud, je serais hyper content.
Le message est passé. Merci en tout cas, Louison, d'avoir été avec nous, Pékin Express. On rappelle que c'est la demi-finale, c'est jeudi à 21h10 sur M6. Les collègues corses, les petits suisses et puis le coiffeur et sa cliente vont tenter en tout cas le tout pour se qualifier pour cette finale qui sera en trois parties, je crois, cette demi-finale. Déjà, il y aura trois épreuves. Sur les trois enveloppes noires, il y en aura une seule qui sera éliminatoire. Et ça, eh bien, ça va être compliqué, mais on le espère tous, évidemment. Bonne chance, voilà, pour tous ces binômes encore en lice. Merci, Louison.
Ben merci, allez les Corses.
Vous êtes demi-finaliste de la 18e saison de Pékin Express. Ce sera beau, mais ce sera pas facile.
Ah, purée. Ça va aller? Tu veux faire quoi?
Votre objectif, maintenant, c'est la finale. C'est clair, c'est simple. Ça peut pas être autrement. De partout. La demi-finale, c'est un sacré morceau.
Darn, on perd tout le riz. Là, je bouche avec mes tototes.
Ça va être très très long.
C'est pas une course, c'est trois courses.
On essaye d'aller lentement, ça va pas. On essaye d'aller vite, ça va pas.
Je suis en route vers la finale, bébé.
On est bien, hein. Et en plus, on bronze nos jambes.
À chaque fois qu'un binôme remporte une course, une amulette.
Yes.
Vous l'avez compris, en demi-finale, pour être tranquille, on est premier.
Double, double, plouf, plouf, plouf.
On est deuxième.
Ça peut se jouer à rien.
Mais on n'est jamais dernier.
En route vers la finale.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré à Années 80, les brunes comptent plus pour des prunes. Un documentaire inédit que vous allez pouvoir suivre vendredi sur France 3, réalisé par Lucie Cariès, qui est notre invitée. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Ça fait plaisir de se retrouver. Produit par Félicie Roblin, également, qui est une habituée de notre émission. On se retrouve pour un documentaire, alors féministe, mais aussi pour se rendre compte des choses, parce que nous qui avons grandi dans les années 80, ben, y a une chose qu'on s'est pas rendu compte, c'est l'émergence de toutes ces chanteuses brunes, à l'image de Lio, de Princesse Erika, de Caroline Loeb, de Gilles Kaplan, mais aussi on aurait pu citer Sabine Paturel et plein d'autres encore. C'est vrai que c'était l'émergence des chanteuses brunes dans les années 80, Lucie. Hein.
En fait,
un jour, Félicie Roblin, donc la productrice, m'a dit, en fait, si elles n'étaient pas toutes brunes, elles méritaient toutes de l'être. Ce que j'ai trouvé assez drôle, en fait, c'est vraiment, ça peut paraître complètement anecdotique, le fait qu'elles soient toutes brunes, mais en réalité, ça raconte une autre présentation de la femme. On n'est plus, présentation ou représentation, on n'est plus dans une blondeur douce, la muse qui inspire les grands artistes. On est dans des femmes qui y vont, qui lèvent le poing.
Oui, on sent qu'on quitte les années 70 avec les Sylvie Vartan, Brigitte Bardot et compagnie, hein, ça c'est sûr.
Voilà, France Gall, etc. Et il se trouve, en fait, oui, qu'au départ, elles étaient toutes brunes. Alors, certaines se sont teintes les cheveux, mais je suis moi-même brune.
Ouais.
Et en fait, j'ai grandi dans les années 80 aussi, et je m'imaginais en Lio. Alors, en fait, c'est une époque, il faut se souvenir de ce que c'était, c'est une époque où il y avait des tribus. Et donc, ça allait avec les artistes. Et donc, moi, par exemple, j'avais le look de Lio, donc c'était un savant mélange où je me crêpais les cheveux et en même temps, je mettais un turban rouge dans les cheveux, rouge qui est exactement celui de mon rouge à lèvres.
Ouais.
Et je me rêvais en Lio. Et je connaissais par cœur certaines paroles. Alors, je connaissais évidemment les brunes, comptent pas pour des prunes, et d'autres aussi. Et c'était en fait une façon de signifier toutes ces femmes qui pour moi qui sont des Amazones. En fait, je les appelle les Amazones. Elles nous ont signifié qu'on pouvait être des filles et des femmes autrement. Avec de l'humour aussi, enfin quelque chose de différent, une façon de renverser la table sans avoir l'air d'y toucher, avec de la musique pop et des mélodies joyeuses et sympas, et en fait il se passe vraiment quelque chose en réalité.
Moi je trouve intéressant, c'est de raconter quand même l'histoire d'une décennie qui a été charnière pour la cause féministe à travers le prisme de la musique, et c'est vrai que la musique des années 80, d'une, elle ne se démode pas, on a l'impression indémodable. Je pense que même les décennies futures continueront à danser sur les nuits de folie, sur les Lio, sur les démons de minuit, etc. On a vraiment l'impression que c'était une décennie à part.
Oui, et en même temps, on n'en avait pas forcément conscience. C'est-à-dire que certaines des Amazones, des brunes qui ont vu le film, Caroline Loeb, Gilles Kaplan, Princesse Erika, m'ont toutes dit, en fait, on ne se rendait pas compte de ce qui était en train de s'écrire.
Ouais.
Je pense que c'est assez fréquent. Quand on vit les choses, on les vit, et donc ça n'est qu'à posteriori qu'on s'en rend compte. Mais il y a eu effectivement des moments déterminants, et certaines paroles, par exemple, trop de blabla. Moi, ça n'est qu'en retravaillant sur cette période pour préparer le film que j'ai compris que ça parlait de violence conjugale en réalité.
En tout cas, je trouve ça super intéressant d'avoir raconté un petit peu cette décennie et ces années 80 à travers les brunes qui ont compté pour cette décennie-là, à travers le prisme de la musique, parce que vous allez en plus profiter d'une bande-son qui va vous rappeler, c'est sûr, plein de souvenirs. Ça va être vraiment une soirée très joyeuse qui vous attend vendredi soir à partir de 21h10 sur France 3. Ça s'appelle Années 80, les brunes comptent plus pour des prunes. Merci beaucoup en tout cas, Lucie, et puis on va se quitter avec
Merci
un petit extrait pour illustrer un peu nos propos. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Dis-moi, les brunes, ça marche bien pour toi?
Pour les brunes?
Ouais, pour
en
les
général
brunes.
Ouais, ouais. Ouais, ça marche super. Toutes les matières,
c'est la ouate qu'elle préfère. Dans les années 80, tout était possible. Tout ça est très fun, très créatif, très génial. Rouge et noir,
j'exilerai ma peur. Moi, je faisais partie de ce vent. On apportait un autre esprit.
Pourquoi dans vos clips, vous êtes toujours si provocatrice?
Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte. Je suis libertine, je
suis une catin. Trop de blabla. Les années 80 sont extrêmement waouh. C'était nouveau. Je pense que nous étions des pionnières. Au nom de tout
ce qui nous sépare. Je crois qu'on a tout envie d'en découdre, quoi.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine s'appelle Borgo. C'est le film à ne pas manquer mercredi dans les salles, le nouveau film de Stéphane de Moustier, qu'on a toujours plaisir à recevoir. Bonjour Stéphane et merci d'être là.
Bonjour, merci de me recevoir.
Et puis Louis Mémy qui est là avec aussi, qui est avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour, merci pour l'accueil, ravi d'être ici.
Et puis, alors, je peux vous dire, dans un instant, on va être rejoint par Moussa Mansali et Avia Herzi également. On va vraiment vous dévoiler ce coup de cœur ciné sous toutes ses formes, parce que c'est un film qu'on a beaucoup aimé, qu'on a eu la chance de voir, nous, au festival d'Angoulême, il y a quelques mois maintenant. Et il faut dire que c'est haletant, c'est prenant. On voit pas les deux heures passer quasiment, et franchement, c'est vraiment bien joué, Stéphane. Mais comment est venue l'idée au départ ?
Au tout départ, il y a eu un fait divers en Corse qui m'avait interpellé, fait divers sur lequel j'ai pas enquêté, dont je n'ai eu de cesse que de m'éloigner, mais qui m'avait quand même intrigué parce qu'il mettait en scène une surveillante pénitentiaire qui avait été amenée à collaborer avec des voyous. Et ce personnage m'avait, qui avait été donc raconté dans la presse, m'avait interpellé. Et de là, j'ai eu envie d'écrire une histoire en inventant probablement d'autres, même totalement d'autres personnages, mais qui pose cette question. C'est comment peut-on, alors qu'on n'y est pas prédestiné, en quelques mois, basculer, être amené à participer à des histoires de voyous, de règlement de compte? Comment est-ce possible? Pour moi, il y avait un mystère là-dedans, dans ce trajet, dans ce destin.
Une histoire d'emprise aussi.
Une histoire d'emprise, de fascination et d'emprise, de manipulation probablement. Mais voilà, tout ça est assez compliqué, tout ça, et j'avais envie de l'explorer et de partager mon questionnement plus que de dénoncer une thèse ou de donner raison au tort aux uns et aux autres. Pour moi, l'objet, c'était plutôt de sonder ce personnage et les ressorts qui l'amènent sans lui donner raison, mais à avoir ses propres raisons pour faire ce qu'elle a fait.
Alors, il y a vraiment deux histoires en parallèle qui vont se suivre dès le départ. Le film commence par un double meurtre devant l'aéroport d'Ajaccio. Et on va suivre également l'installation du personnage de Avzia et de Moussa, dont on parlera, de Djibril et Mélissa, qui est les surveillantes pénitentiaires, qui arrivent d'une prison parisienne et qui va s'imprégner dans ce monde corse et va être mis sur l'unité 2 qui n'a que des Corses. Et donc, on va suivre ces deux histoires en parallèle et on découvrira. Et on va laisser le plaisir aux spectateurs de le découvrir, comment ces deux histoires se rejoindront à un moment donné, en tout cas Stéphane.
Oui, il y a un peu deux régimes d'histoire. On est d'une part avec le personnage d'Afsia, le personnage de Mélissa qui est interprété par Afsia. Et en parallèle, on voit l'enquête qui avance. Ça m'intéressait de multiplier les points de vue pour montrer aussi que c'est pas en multipliant les points de vue qu'on y voit forcément plus clair, pour montrer que la vérité, elle est parfois plus compliquée que ça à cerner. Ça m'intéressait aussi de montrer une enquête de police dans ce qu'elle peut avoir d'impuissante, puisque c'est souvent la réalité des commissariats, des gendarmeries. Et puis ce film joue avec le genre, il joue avec le genre policier ou avec le genre thriller, qui est un genre avec lequel, dont je me suis servi, qui structure le film, qui crée une tension, mais que je voulais aussi déjouer. Et en cela, de montrer des policiers qui n'y arrivent pas, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les films, mais moi, c'est ce que je trouve très intéressant, parce que je trouve que ça en dit long sur notre condition humaine. Et c'est comme ça que j'ai pensé le film, avec ses résonances, quoi.
Alors, on va parler de ton personnage, Louis, justement, qui fait un peu jeune premier pourtant. C'est-à-dire, on n'imagine pas du tout, en voyant sa tête un peu de premier de la classe, que bah il sort de prison, mais il connaissait Mélissa d'avant. Et donc Mélissa arrive au moment où justement Louis sort et va être un petit peu l'instigateur de cette emprise en quelque sorte au fur et à mesure de Mélissa. Mais toi d'abord, qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle, Louis ?
Ce qui m'a plu dans le rôle, c'est que moi et le personnage détonnaient vraiment. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas l'habitude de jouer ces rôles-là et ensuite. Ensuite, voilà, c'était un challenge pour moi de pouvoir incarner un personnage qui a énormément de puissance, de vice et qui peut exercer une forte manipulation. Et en même temps, moi-même en tant que garçon, pouvoir me mettre dans la peau de ce personnage-là, quoi, et arriver avec voilà, le fait que je parais jeune, de que ce soit voilà, physiquement, et comment rendre la crédibilité et toute l'assurance qu'a ce personnage, mais du coup en gardant ce côté ange qu'a le personnage, voilà, sans brouiller les deux, et voilà, garder ce côté souriant toujours et enfantin, mais instaurer quand même une sorte de vice et de manipulation, quoi. C'était ça le challenge pour moi, et je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir mixer la jeunesse et la puissance en même temps. Je trouvais ça vraiment beau à pouvoir incarner.
Là, c'est canon ce que t'as fait, j'avoue.
Si je peux ajouter un truc, j'avais pas du tout écrit le film en imaginant que le rôle serait interprété par quelqu'un d'aussi jeune que Louis. Au début, je voyais des hommes qui avaient plutôt la trentaine ou une petite quarantaine d'années. Et c'est vraiment en casting, c'est Julie Allion, la directrice de casting, qui m'a proposé Louis. Et c'est en casting que j'ai eu la révélation que c'était... Et ça fait partie des grandes joies qu'on a parfois en casting, c'est quand d'un seul coup un acteur augmente un rôle qu'on a écrit. Et là je voyais que la puissance que ça donnait et la force que ça donnait au personnage, qu'il soit interprété par quelqu'un qui est effectivement sa jeunesse, son apparente candeur, mais qui tout de même, parce que c'est Louis et qu'il a ça en lui, à cette autorité. Et le fait qu'il soit jeune et qu'il soit si jeune et si candide et qu'il ait presque pas qu'un rapport de séduction, mais aussi un rapport presque de maternel, de
fraternel, hein, entre Mélissa et lui. Hein.
Et ça, sa jeunesse apportait tout ça et ça enrichissait considérablement en fait le rôle. Et
quelque part, ça aurait pas aussi bien marché, je pense, avec un autre. C'est très bien justement. Voilà.
Ça marchait à la fois parce qu'il est jeune et parce que lui, Louis, a tout ça en lui, a cet art de naviguer entre les lignes et de pouvoir à la fois, comme il l'a dit, être solaire, souriant, candide, mais aussi extrêmement déterminé, manipulateur et fort d'une vraie autorité.
Je voulais aussi rajouter que voilà, ce challenge-là et ce qu'évoque Stéphane, c'est en grande partie possible grâce à la confiance, que ce soit au casting ou lors du tournage ou des essais que m'a accordé Stéphane et la confiance et l'expérience que m'a inculqué aussi un petit peu Afsia et les libertés que proposait Stéphane, voilà, que ce soit au casting encore, que je le redis, ou en tournage, ça aurait pas été possible sans ça.
En tout cas, t'as réussi à le rendre hyper attachant, ce personnage, malgré tout. Quelle est ta scène préférée ?
Ma scène préférée, je pense que c'est celle de la station essence, où j'arrive en moto avec un de mes collègues, et voilà, je suis en harcèlement sur Mélissa.
C'est peut-être celle où t'as amené le plus de froideur dans le personnage, peut-être. Ouais, c'est là qu'on a commencé à sentir basculer, en tout cas, le personnage un peu plus froid, en tout cas avec Mélissa. Stéphane, souvent, on voit la Corse un peu avec effectivement paysage du bord de mer, avec un peu des clichés cartes postales. Et là, ce que j'ai aimé, c'est vraiment une façon différente de filmer la Corse. On voit par exemple qu'il pleut en Corse. On voit, voilà, il y a plein de choses différentes ou que voilà, c'est pas vraiment voilà la Corse de rêve qu'on a l'habitude de voir, mais c'est aussi une Corse différente.
Le film, il suit un personnage qui est celui de Mélissa, et moi j'ai essayé de saisir avec lui ce qu'il percevait, lui, de la Corse. Et donc oui, je voulais sortir de l'image de carte postale, même si la carte postale, on la voit dans le film, et elle participe du charme et de la beauté, du caractère grandiose de la Corse. Mais évidemment, c'est pas que ça. Moi, j'étais très content qu'il pleuve aussi. J'étais très content que la Corse apparaisse parfois sous un jour plus sombre, plus menaçant. Elle n'en est pas moins puissante, au contraire, d'ailleurs. Au-delà de ça, moi, dans cette histoire, il me fallait une porte d'entrée. Je suis pas Corse, j'adore la Corse, et j'avais depuis longtemps l'envie de faire un film en Corse, mais il me fallait quand même une porte d'entrée. Et c'est vrai que ce personnage qui n'est pas corse, qui débarque dans sur cette île dont il ne maîtrise pas les codes.
De Paris en plus.
Voilà, qui vient de région parisienne. Ça m'intéressait avec elle d'arriver là et avec elle d'essayer de décrypter à la fois les codes, les usages et la géographie ou les paysages.
Bon, en tout cas, on va suivre ce coup de cœur. Ça s'appelle Borgo. On va écouter la bande-annonce. On va revenir juste après avec Afsia et Moussa qui vont nous rejoindre, qui vont prendre votre place. Merci en tout cas infiniment. Et allez voir le film, c'est mercredi au cinéma. Ça s'appelle Borgo. Merci Stéphane et merci Louis. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Ça règle le monde compte. C'est une bande de Corse qu'on veut à une autre bande de Corse.
Boum, boum.
Ils continuent à s'entretuer, ça nous fera des vacances.
Je vous présente à votre nouvelle surveillante.
Bonjour.
Salut.
Bateau.
Oh. Ok, pris. Ça va ?
Ça va.
Vous savez ce qu'on dit sur l'unité 2 ?
Reculez.
Et aux Salines, ça va ?
Comment tu sais que j'habite aux Salines ?
On dit que c'est les détenus qui surveillent les gardiens et non l'inverse.
Tu sais que j'ai des yeux. Je vois bien qu'il y a un problème. Bon, Maton, maintenant que je vais partir, ton voisin, il a reçu le message ou pas ?
Moi, j'ai pas de problème avec vous, vous savez.
Je comprends toujours pas, c'est la dernière fois que je te le dis. Ouais, t'inquiète pas, hein. La Corse, c'est petit.
Ça va ?
On doit se croiser, on se croisera.
Et ton mari, il est content, il a trouvé un stage.
Et au fait, j'ai besoin d'un renseignement. J'aurais besoin de connaître la date de la prochaine permission de Rose. Le jour où il sort.
Et voilà, on continue notre spécial Borgo, notre coup de cœur ciné cette semaine. Et chose promise, chose due. Eh bien, Afsia Herzi est avec nous. Bonjour Afsia.
Bonjour.
Habitué de l'émission, et puis Moussa Mansali, pareil, tu deviens habitué après le Marchand de sable qu'on a adoré. Franchement, avec toi, on est très heureux de te voir de retour parmi nous.
Merci, ça fait plaisir aussi. Vous m'avez manqué.
Ah ben tu vois, nous aussi. Franchement, en plus, voilà, vous avez des films tous les deux qui nous ont marqués, et celui-là va pas déroger à la règle, puisque Borgo, on a eu la chance de le voir nous en avant-première au Festival d'Angoulême il y a maintenant plusieurs mois, et j'avoue qu'on est tout de suite transporté dans l'univers, cette beauté de la Corse, une beauté qu'on n'a pas l'habitude de voir justement de la Corse. On est loin des clichés de cartes postales, mais on découvre une Corse aussi différente. Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet déjà à tous les deux?
Alors, moi, ce qui m'a plu, j'ai eu un coup de cœur immédiat pour le scénario.
pour le personnage. J'avais rencontré Stéphane ici à Angoulême, à l'époque où j'avais présenté mon premier film, Tu mérites un amour. Et j'étais allée voir son film, La fille au bracelet, que j'avais adoré. Donc voilà, notre première rencontre s'est faite ici, à Angoulême. Et après, quelques mois plus tard, il m'a contactée pour me faire lire ce projet. J'ai adoré ce personnage de surveillante de prison, ce qui lui arrivait. C'était vraiment un magnifique rôle et je savais qu'avec Stéphane, ça allait être super.
Moussa, toi, qu'est-ce qui t'a plu ? Tu incarnes Djibril, donc le mari de Mélissa, incarné par Avzia.
Moi, ce qui m'a plu, même au-delà du scénario, c'était justement le fait de jouer un mari qui est en reconstruction dans son couple, qui a encore les stigmates, justement, des problèmes qu'ils ont pu avoir auparavant. Et donc, il y a cette incompréhension par rapport à tout ce qui peut arriver, justement, sur le personnage d'Afia, d'où il est dans l'incompréhension. Et c'était super intéressant parce que c'était pas un personnage qui devait aussi apporter du soutien, mais en même temps, qui avait besoin de soutien. C'est toute cette complexité, justement, de couple qui repart de zéro et qui traverse un moment assez difficile dans un contexte comme ça. Donc, pour moi, c'était un challenge parce que, justement, j'avais pas joué de rôle, forcément, comme ça. Et donc, tout de suite, ça m'a plu, au-delà de l'histoire qui est vraiment prenante, quoi.
D'ailleurs, 100 kilos, tu tiens pas à l'alcool, c'est une honte, ça.
On sait pas combien de litres d'alcool j'ai lu dedans.
J'ai adoré cette scène. Ah ouais, j'ai adoré la réplique. Franchement, tu la sors d'un naturel, Avzia. C'est assez énorme, cette réplique dans la voiture que vous verrez dans le film. Vous penserez à nous quand vous irez le voir au cinéma. Alors, tu incarnes Mélissa et Djibril, en fait, arrivent sur l'île de Beauté. Toi, tu es surveillante pénitentiaire et t'arrives à la prison de Borgo. C'est vraiment une surveillante très humaine qu'on retrouve, que tu amènes une humanité, mais débordante, pour le coup.
Merci.
Dans un univers qui pourrait, a posteriori et de façon extérieure, ne pas l'être.
Moi, quand j'ai, c'est là où le projet m'a vraiment parlé aussi, c'est que j'ai une, maintenant on le fait plus, mais j'avais une de mes meilleures amies qui était surveillante au Baumettes à Marseille et qui me racontait son quotidien. Dans ce qu'elle me racontait, c'était très humain. Et après aussi pour le film, j'ai passé quelques jours au Baumettes à passer du temps avec m'imprégner, à passer du temps avec des surveillants, des surveillantes. Il y a de tout après partout, mais ce qui m'a le plus touché, c'est ce rapport humain. J'avais l'impression que les surveillants, que c'était pareil, quoi. C'était le même niveau, quoi. Et ça m'a touché. Pour moi, c'était important aussi. Après, dans les discussions qu'on a eues avec Stéphane, que ce soit un personnage humain, quoi. Pas, voilà. Elle se laisse pas faire, bon, parce que ça reste quand même un travail. Elle est quand même touchée, parce que c'est quand même des gens qui sont en prison. Et,
Faut spécifier que t'es dans une unité, l'unité 2, qui y a uniquement que des Corses. Donc tu vas être très vite, en fait, embarqué dans le climat et dans l'ambiance corse, on va dire. Ça va se corser.
Ah, ça va se corser, oui, ça va se corser. C'est des caractères très forts, hein, les détenus, ils ont des caractères très forts. Et en même temps, ils sont très humains aussi, hein, et ça reste des êtres humains. Hein. Et d'ailleurs, à un moment, j'aime bien, le personnage dit « Je cherche pas à savoir ce qu'ont fait les détenus. » Elle n'est pas dans le jugement, elle fait son travail, elle essaie d'être juste dans son travail. Et c'est ce que j'ai aimé dans le personnage. Et voilà, c'est une jeune femme qui, au début, est juste, a sa vie de famille, veut pas de problème, essaie de bien faire son travail. Ne mélange pas tout et petit à petit, malgré elle va tomber dans quelque chose qu'elle va pas réussir à contrôler, quoi.
Djibril sent Mélissa lui échapper petit à petit, on sent. Ça devient vraiment compliqué pour lui à vivre. Hein.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on peut comprendre, même au début du film, que elle dit, comme dans la scène dans la voiture, justement, Mélissa dit à Djibril, on était venu pour repartir de zéro. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'il y avait eu une cassure et ils avaient décidé de quitter le continent, justement, pour se reconstruire. Et le problème, c'est que pour Djibril, en arrivant avec. Il a l'impression déjà que l'environnement, il ne maîtrise pas l'environnement et il n'arrive pas à maîtriser justement, on va dire, sa position dans le couple. Donc il sent Mélissa lui échapper et c'est très compliqué parce qu'il a cette frustration de se dire « Je peux comprendre que le boulot de ma femme est compliqué, mais je n'ai rien, moi, pour essayer d'être un appui moral pour elle. » Et c'est là où ça commence un peu à...
Est-ce que c'est un personnage qui se cherche aussi, Djibril?
Et il se cherche, donc, et d'où la scène, justement, la scène où
Elle te recadre.
Voilà. Et je pense que même cette scène-là, parce qu'elle, en essayant de le protéger, il ne le perçoit pas de la même manière. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que du côté de Mélissa, elle essaye, elle, de le protéger. Lui, il le voit un peu comme une manière qu'elle lui montre que ça l'a pu le fait qu'il ne contrôle rien dans là où il est arrivé et il ne sert à rien. C'est pour ça qu'il y a des moments où il hésite à vouloir partir, etc. Et ce que je trouve de plus fort aussi, c'est que malgré tout, à un moment donné, on va dire les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, qui les ont poussés justement à repartir de zéro, va les aider justement vers la... à un certain moment du film, à justement rester synchronisés sans s'être consultés en fait.
Borgo, c'est notre coup de cœur ciné. Merci en tout cas d'avoir terminé cette spéciale avec nous. Merci Afzia, merci Moussa. On espère vous retrouver très vite en tout cas pour de nouveaux beaux projets. On reste connectés évidemment ensemble et je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à bientôt.
Est-ce que vous aimez votre travail ?
Parfois c'est dur, parfois je fatigue.
Et vous êtes proche de vos détenus ?
Alors c'est toi la matone ?
Oui.
Et vous voyez certains détenus en dehors du travail ?
Vous m'avez suivi ?
Voilà, on t'a suivi. Elle est petite, Lila.
Moi j'ai des enfants.
Moi j'ai des gros problèmes.
Toi, je vais te donner un conseil. Maintenant, fais-toi discrète.
Voilà, c'est lui. On tourne autour, mais on est incapable de l'identifier.
Attendez. Elle, je la connais.
Et dans un instant, notre spécial frère pour terminer cette émission avec Olivier Casas et Michel de Robert. Un grand moment en perspective. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
On m'a demandé d'être dur, on m'a demandé d'être fort, au point d'abattre ce mur et puis d'en construire encore. On m'a dit faut des blessures, au moins des bleus sur le corps. C'est même à ça qu'on mesure tous ceux qui font des efforts. Tous ceux qui font des efforts. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé. À personne, à personne. Cette foutue ligne d'arrivée, on m'a dit il faut séduire, toucher les corps, les compter, que l'important c'est d'en jouir et de brandir le trophée. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. Un homme qui ne soit pas qu'un homme. Sois un homme, un homme qui ne soit pas qu'un homme. T'as plus qu'à serrer les dents. On m'a dit tu sais quoi faire. Et puis t'es plus un enfant. C'est pour les filles, les manières. Les mecs ça prend pas de gants. Moi, j'ai rien demandé à personne.
Comment être un homme?
tous les bonus audio et vidéos de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma, ça sort mercredi dans les salles, un film à ne pas rater. Ça s'appelle Frère. C'est le nouveau film d'Olivier Casas après Babyphone. Il y a quelques années où on s'était rencontrés, mon cher Olivier. Te voilà de retour avec un film totalement différent dont on va parler tout de suite. Merci d'être avec nous, Olivier.
Avec plaisir. Bonjour.
Et puis, t'es venu avec un sacré beau cadeau. Puisque c'est une histoire vraie, frère, l'histoire de deux frères abandonnés à eux-mêmes dans une forêt pendant 7 ans, de Châtelaillon en Charente-Maritime, et Michel et Patrice, et Michel de Robert, justement, dont sa vraie histoire est avec nous. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais nous faire. Merci Michel de Robert d'être là avec nous.
Bonjour à tous.
Alors Olivier, je crois que Michel était voisin sur Paris et que vous vous connaissez depuis très longtemps tous les deux, mais que Michel a mis longtemps à te faire part un peu de son histoire et de ce qu'il avait vécu jusqu'au moment où il s'est livré. Et ça a pris encore quelques années avant de le décider. Effectivement, faire un film, ça pouvait pas rester plus longtemps aussi méconnu que ça. C'est extraordinaire cette histoire.
Bah, c'est une histoire que Michel a gardée secrète pendant près de 50 ans. C'était leur secret avec Patrice, avec son frère. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert cette histoire un peu par hasard, alors que ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que j'étais ami avec Michel. Même après avoir eu les premiers mots de Michel sur son histoire et sur le fait qu'ils ont grandi comme pendant 7 ans comme deux enfants sauvages en forêt, on a passé près de 5 ans à discuter régulièrement par période et à se retrouver régulièrement tous les deux pour en parler, pour vraiment tirer tous les fils de cette histoire et que cette histoire qui a été secrète pendant longtemps puisse devenir un film en pleine lumière pour le grand public.
C'est un cadeau pour un cinéaste, pour un réalisateur, pour un auteur, quand on a quelqu'un qui livre une histoire pareille, qui peut pas être plus cinématographique que celle-ci, parce que je suis sûr que tout ce qui est dans le film, t'as quasiment rien eu besoin de romancer. On est dans la véracité, là.
Bah, surtout, il y aurait eu plein de façons de raconter cette histoire, parce que il y a cet élément exceptionnel, extraordinaire, qui est leur survie pendant 7 ans en forêt. Ça aurait pu être le cœur du film, mais surtout pour moi, ce qui a été important de raconter, ce qui est ma bouleversé encore plus que la sidération de découvrir cette histoire d'enfance complètement hors norme, c'est l'amour, c'est vraiment l'amour entre ces deux frères. Et en fait, le film est avant tout une grande histoire d'amour entre deux frères qui se sont aimés à l'infini, qui se sont aimés comme personne, et c'est surtout ça que j'ai voulu raconter.
Et leur retrouvaille, puisqu'il y a toute une partie tournée au Canada où Michel retrouve Patrice. Là-bas, Michel, on hésite longtemps avant de se laisser happer par le travail d'un auteur, d'un réalisateur pour raconter sa vie.
Ça faisait 10 ans que je connaissais Olivier. J'avais beaucoup d'amitié pour lui, beaucoup de reconnaissance sur tout ce qu'il pouvait ce qu'il m'avait raconté sur son métier. Il a été bouleversé, ému. Donc à partir de là, peut-être que c'était le jour.
Il y avait une confiance qui s'est installée.
Il y a une confiance qui s'est installée, c'était certainement le jour. Et donc je me suis dit, il faut y aller, il faut raconter cette histoire, et ça sera formidable pour lui. Et en fait, bon, le prix à payer pour moi, maintenant à mon âge, cette histoire, elle est loin. Donc c'était extraordinaire de pouvoir lui donner ça.
Donner ça alors que c'est des souvenirs qui remontaient énormément. Vous aviez 5 ans en 1947 quand vous avez été abandonné, 49 quand vous avez été dans cette forêt avec Patrice. Et pourtant Patrice était un peu le plus dégourdi des deux à l'époque, évidemment, puisque c'était aussi l'aîné. Et malgré tout, Michel, c'est peut-être vous qui avez fait le plus preuve de résilience, qui avez le mieux vécu le retour un peu à la réalité par la suite. Ça a été plus dur pour Patrice.
Ça a été plus dur, mais donc il faut resituer cette histoire. Patrice est l'aîné, donc c'est lui qui porte tout. Lui, la personne au-dessus de lui. Moi, je suis son petit frère. Les moments de doute, les moments difficiles même au niveau... si j'ai froid, si j'ai des besoins, etc., c'est Patrice est là. Pour Patrice, personne n'est là. Moi, je suis là, mais je suis son petit frère.
Donc, la charge était énorme.
Il a une charge énorme, donc il va partir avec cette charge. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi abandonné, qu'il n'y a pas de père, qu'il n'y a pas de mère, il n'y a personne. On est dans l'après-guerre, on est en plein sur le problème des enfants perdus d'après-guerre, parce qu'il y en a énormément qui n'ont pas leur identité, qui n'ont pas retrouvé. C'est difficile à croire aujourd'hui, mais ce film leur est dédié, et avec un peu de recherche, on s'aperçoit que c'est inimaginable, tous ces enfants d'après-guerre, qui sont restés comme ça sans parents, sans identité, etc. Ensuite, Patrice, puisque vous posez la question, sa charge, il l'a prise en totalité aussi, parce qu'il ne retrouve pas son père, parce que il est en conflit avec sa mère, etc. Donc ça va très loin jusqu'au moment où il dit « Allô Michel, tu sais, je peux plus, c'est trop lourd à porter, j'en ai assez, la vie, elle ne m'apporte rien, elle m'apporte pas tout ce dont j'ai manqué ».
C'est costaud, effectivement, de s'entendre dire ça. Et malgré tout, c'est une histoire dans laquelle on est plongé avec une émotion très très particulière, parce que d'une, on est ému par la transition permanente entre 1949, les années 50, du moins le début des années 50, et puis après les années 90. Olivier, et c'est une balade permanente. Et qui rend certainement encore l'histoire émotionnellement, en tout cas très très forte pour le spectateur également.
Oui, d'ailleurs, j'ai tout fait pour pas trop marquer les époques. Alors il se trouve que pour l'enfance, la forêt des années 50 et la forêt un arbre reste un arbre encore aujourd'hui, autant qu'il en reste. Donc et c'est vrai que sur la partie contemporaine des années justement qui a eu lieu dans les années 90, j'ai essayé de pas trop marquer l'époque, le maître mot avec mon équipe, c'était époque pas époque. C'était vraiment, parce que ce qui m'intéresse surtout avant tout, c'est que cette histoire reste intemporelle et universelle, et j'avais pas envie de la dater. Alors c'est vrai que la question des enfants perdus, c'est un problème qui est très très lié à la période d'après-guerre, mais le prix à payer pour les enfants dès qu'il y a eu ou qu'il y a un conflit, c'est quelque chose de très actuel, et c'est un sujet qui est malheureusement encore, qui a encore beaucoup de résonance. Et dans les zones de conflit comme l'Ukraine, par exemple, il y a la question des enfants qui sont enlevés par les Russes, elle est toujours aussi présente et elle existe. Donc cette dimension des enfants victimes des conflits des grands et des adultes, malheureusement, c'est un sujet qui existe encore aujourd'hui.
On va revenir dans un instant, ça s'appelle Frères, ça sort mercredi au cinéma, on revient juste après avec vous, justement aussi, Michel de Robert, sur le temps qui a passé, justement. Et on va écouter la bande-annonce, on revient juste après, écoutez.
Allô ?
Patrice, avec toi ? J'ai un mauvais pressentiment. C'est comme s'il avait disparu.
Dis-le-moi si tu sais quelque chose.
Il a pris son passeport ?
Il a dû le prendre.
Je crois que j'ai toujours redouté que ce moment arrive un jour. C'est étrange d'avoir une partie de son être qui vit en dehors de soi. Juste un demi-frère. Et pourtant, c'est la moitié qui m'a permis de rester en vie et de dépasser mes 6 ans.
T'es venu ici pour mourir ?
Y a pire, non ?
Tu serais parti sans me dire au revoir ?
Tant que t'es là, on le saura jamais.
Depuis qu'on est parti de cette cabane, plus rien n'a de saveur. Je crois après quelque chose qui reviendra pas. C'était nos meilleures années.
On a commencé par la fin. On a commencé par le meilleur.
Allez, de retour, notre spécial frère avec Olivier Casas et Michel de Robert qui sont avec nous. Michel, on peut effectivement se dire, nous tous, surtout quand on habite par exemple en Charente-Maritime, comment ça se fait aujourd'hui qu'on n'ait pas entendu parler de cette histoire ? Plutôt, malgré tout, vous avez gardé ce secret pendant 50 ans, ce qu'on disait avec Olivier. C'était une sorte de pacte, tous les deux, avec Patrice, de garder ça pour vous, y compris auprès de vos femmes, de vos amis, etc., hein.
Alors cette histoire, c'est une sorte de pacte, tout à fait, parce que cette histoire, elle nous appartenait à nous. Quand vous êtes des enfants qui sont dans la différence, qui sont dans le pas comme tout le monde, entre guillemets, vous n'avez pas forcément envie de parler. Et puis la vie passe, et peut-être que certainement j'aurais parlé si j'étais seul, mais le fait qu'on soit deux, le fait qu'on se retrouve très régulièrement, on était excessivement proches, on se voyait tout le temps, automatiquement cette histoire, on se la raconte. Si on peut parler de thérapie, la thérapie, elle s'est faite
entre vous deux,
de l'un vers l'autre. Hein. En plus de ça, raconter ça pourquoi ? Pour avoir des gens qui vont s'apitoyer sur cette histoire, pour avoir...
Je pense pas que c'est une histoire d'apitoiement, c'est découvrir quand même une histoire, c'est des petites histoires dans la grande histoire, en fait. C'est plus quelque chose qui va effectivement provoquer une émotion, mais c'est quand même un destin extraordinaire.
Alors, quand vous dites c'est une histoire dans l'histoire, c'est réellement ça. Parce que tout à l'heure, on a parlé des enfants de la guerre. Les enfants de la guerre, tous ces gosses qui sont là, moi, pourquoi Olivier, il s'est dit, faut que je m'appuie, faut que je recherche, faut que je vois, etc. Il a découvert quelque chose de d'incroyable au niveau de ses enfants de la guerre. Quand j'avais 10 ans, 9-10 ans, couramment dans le village, plusieurs fois par mois, il y avait des gamins qui avaient peut-être plutôt 14-15, mais qui traversaient les villages et qui cherchaient du travail de village en village, de ferme en ferme, de ce qu'ils pouvaient trouver. Et finalement, les gens les appelaient comment ? Des vagabonds. Et ces gamins qui étaient vagabonds, on peut aussi se poser la question aujourd'hui, où dormaient-ils ? Forcément dans une grange, mais aussi dans un fossé, peut-être en forêt. Donc tout ça n'était pas extraordinaire à l'époque. Et puis, est-ce qu'une porte se serait ouverte ? Est-ce que quelqu'un nous aurait dit « rentre chez nous ?» On est des enfants en guenilles. On est des enfants relativement violents. Quand on a volé des poules et des œufs, bien évidemment, le paysan, il va raconter au village, oui, c'est encore ces sales gosses là, qui habitent dans la...
C'est un garnement, comme on disait à l'époque.
Voilà. C'est encore ces garnements, etc. Donc, on va plutôt nous lancer des pierres que de nous dire, venez chez nous. Donc, on est rejeté par l'abandon et on est rejeté par la société. C'est quand même un petit village de pêcheurs aussi, hein. C'est pas une grande ville. On est rejeté par ces gens-là qui quasiment ont peut-être un peu peur de nous. Donc tout ça fait que ces années, elles passent, voilà. Et on n'a pas envie de ces enfants. On nous a oubliés au niveau des parents. Et ben on est oubliés par la société. Et ben finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé notre petite société à nous. Et on vit dans notre petite société à nous, on s'est fait notre vie, et c'est l'amour entre nous deux qui va nous permettre quelque part de survivre. Olivier, il a pris tellement à cœur cette histoire, qu'en fait cette histoire elle est sortie. Et il en a fait quelque chose d'extraordinaire. Donc ce film, c'est quelque chose de merveilleux, parce que tout ce qu'on a pu connaître de difficultés et de bonheur est dans ce film. Et la première fois que j'ai vu ce film, j'étais tellement bouleversé. C'était un moment absolument très difficile et incroyable. Mais j'ai eu qu'un seul mot à dire à Olivier, c'est merci.
C'est un bel hommage aussi pour Patrice. C'est une question que je n'osais pas trop vous poser, ça, Michel. C'est effectivement la première fois que vous êtes retourné, que vous avez vu le film. Il y a deux moments importants pour le coup. C'est la première fois que vous avez vu le film, peut-être tout seul, et puis la première fois que vous êtes revenu sur les lieux du crime, en quelque sorte, à Châtelaillon, et retrouver la maison, retrouver tout ça. C'est chargé en émotion.
Mais en même temps, aujourd'hui, je vais vous dire une chose, ma force. Même quand je participe au débat des avant-premières, ma force, c'est lui qui me la donne. Et je le fais pour lui, et je le fais pour Olivier, parce qu'Olivier, il m'a donné un cadeau incroyable avec ce film. C'est une histoire qui paraît complètement incroyable, et en même temps, je la vois sur l'écran, et je me dis, c'est fantastique. Elle va peut-être servir à ce que certaines consciences s'ouvrent, à ce que certaines personnes comprennent, etc. Donc en fait, il a réussi à faire un film qui va au-delà de cette histoire. Et en ça, c'est un grand hommage à lui rendre, parce que il va plus loin vers les gens.
Et je pense aussi à Stéphane Villain, qui est maire de Châtelaillon, qui a dû tomber certainement un peu des nues en découvrant peut-être cette histoire s'il la connaissait pas. Mais il y a des chances qu'il la connaissait pas. Olivier, je me souviens quand t'as aidé il y a quelques mois sur le casting des enfants. Je vois que tu t'es très bien débrouillé, en tout cas. Les enfants sont épatants. Et puis ce duo de comédiens de Mathieu Kassovitz, évidemment, et d'Yvan Attal est juste bouleversant. On n'a pas l'impression de voir deux comédiens qui sont deux monstres sacrés du cinéma, mais de voir réellement deux frères. Et ça, c'est aussi la force du sujet, c'est de s'être complètement emparé pour Yvan de Michel, qui est encore là pour le coup, pour pouvoir peut-être lui transmettre certaines choses, mais peut-être plus compliqué pour Mathieu, justement, de s'imprégner de Patrice qui est plus là. Donc c'est peut-être plus compliqué. En tout cas, ils sont incroyables tous, que ça soit les enfants ou les adultes.
Oui, c'est sûr qu'ils sont, et les six, parce qu'il y a deux binômes d'enfants, vu que Michel et Patrice ont passé 7 ans en forêt, il a fallu deux binômes d'enfants pour les incarner, parce qu'entre 5 et 12 ans, les enfants, ça change, donc un seul comédien n'aurait pas suffi. Après, concernant la Patrice, moi, Patrice, personnellement, je l'ai jamais connu, parce qu'il est mort il y a 30 ans, mais Michel m'en a tellement parlé. On a notre première discussion avec Michel, c'était il y a 9 ans. Donc je vous laisse imaginer la quantité de d'émotions et d'informations, d'affects, de vécu partagé avec Michel et de discussions autour de Patrice. Ça a été tellement long et intense dans tout ce qu'on a partagé autour de cette histoire que aujourd'hui Patrice, moi je sais qu'il fait partie de ma vie. C'est un homme qui fait partie de ma vie, qui a pris une place dans mon vécu. Sans l'avoir connu, c'est la première fois que je ressens ça. Et je pense que dans l'écriture, j'ai forcément insufflé une certaine justesse à ce personnage, tellement grâce aux discussions et aux dizaines d'heures de discussions avec Michel, j'ai été à sa rencontre en fait, pas grâce aux mots de son frère finalement. Donc je pense que Mathieu avait aussi cette partition grâce aux mots de Michel, où Michel avait placé les notes et moi je les avais transposées pour qu'il y ait accès. Mais
lui, il avait plus qu'à les jouer au piano.
Surtout, je pense que Mathieu a naturellement aussi une énergie et un feu et une intensité intérieure qui correspondait vraiment à ce qu'est Patrice. Et Michel, quand il a rencontré Mathieu, et encore plus quand il l'a vu dans le film, il a dit c'est fou parce qu'il y a des regards qui sont les mêmes.
C'est ça qui est assez dingue. En tout cas, aller découvrir Frère. C'est donc mercredi au cinéma. C'est le film à ne pas manquer de cette fin de mois d'avril à découvrir, Olivier. Parce que franchement, vous allez passer un moment extraordinaire. Vous allez découvrir une véritable histoire. Et puis, d'une qui est passionnante, émotionnellement chargée.
Qui porte aussi un bonheur absolument incommensurable. Parce que ce qui est fou dans cette histoire, c'est que quand on dit deux enfants abandonnés, on a tendance à se dire les pauvres. Mais ce qui a été terrible, c'est qu'ils ont eu des problèmes avant et après, mais quand ils étaient tous les deux, au-delà de la faim et du froid, ils ont vécu un bonheur que peu d'êtres humains ont l'occasion d'expérimenter au cours de leur vie. Donc c'est une lumière absolument incroyable.
C'est ça le paradoxe.
Oui, c'est tout à fait le paradoxe. On a été parfaitement heureux au printemps, comme en ce moment, les premiers soleils où on va courir dans les blés, où on va se lancer l'un contre l'autre, etc. La rivière où on joue dans la rivière, etc. Tout ça, tous ces moments. Chaque fois que Patrice me ramène quelque chose, c'est un moment de bonheur. Et parce que c'est regarde Michel, ce que j'ai trouvé, etc. Et moi je suis content. Et je lui dis ah super, je vais pouvoir faire ça, etc. Il y a beaucoup de moments de bonheur. Il n'y a aucune contrainte en rien. Il n'y a même pas le fait de se dire c'est l'heure d'aller dormir ou c'est l'heure de se réveiller. Ça n'existe pas. On dort quand on est fatigué, on mange quand on a faim, on fait ce qu'on veut. On est libre.
Je conseille à tous les enfants d'aller voir d'ailleurs ce film. Vraiment, parce que vous allez voir qu'on peut être très très heureux sans téléphone portable, sans jeux vidéo, sans console, sans tout ça. Voilà, et qu'on peut effectivement vivre un bonheur tout aussi intense, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Michel, en tout cas, et merci Olivier.
Merci à vous, merci, et merci de cette interview vraiment superbe.
Merci à toi, à bientôt.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On parlera de Plus belle la vie avec Manon Chevalier, qui incarne Zoé dans la série, qui sera notre invitée. On va parler de 9-3 bébé également, qui vient de sortir sur France TV.tv. On parlera également de Bouchon, qui arrive sur la plateforme Arte.tv. Et puis on parlera également de Sirène, un nouveau film sur Netflix avec Chirine Boutella. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android Chute. On écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Partagez un moment convivial et chaleureux en écoutant Chut, on écoute la télé avec Iruac, votre marque de boucherie charcuterie basque qui fête ses 50 ans de savoir-faire avec ses recettes savoureuses et typiques du Pays Basque et du Sud-Ouest. Retrouvez vos produits Iruac dans vos grandes surfaces. Toutes les infos sur iruac.fr.